Vous écoutez France Culture. Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. Bonsoir Pierre-Michel Menger.
Bonsoir.
Les auditeurs de France Culture ont entendu hier soir dans l'Éloge du Savoir votre leçon inaugurale. Vous l'avez prononcée dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France, un des plus beaux amphithéâtres de Paris, mais peut-être d'Europe d'ailleurs.
Bel endroit, oui.
Et donc c'était le jeudi 9 janvier dernier pour inaugurer donc votre chaire intitulée « Sociologie du travail créateur ». Cette leçon inaugurale s'intitulait « La différence, la concurrence et la disproportion » et elle est publiée aux éditions Fayard, au fond comme toutes les leçons inaugurales de ceux qui sont dorénavant vos confrères. Peut-être faut-il dire tout de suite qu'il n'y avait plus de chaire de sociologie au Collège de France depuis celle qui avait été occupée par Pierre Bourdieu. C'est une chaire qui, comme on sait, avait joué un grand rôle dans les débats qui lui furent contemporains et encore aujourd'hui. Alors je vous souhaite, Pierre-Michel Menger, de susciter autant de controverses et de faire couler autant d'encre.
Merci.
Alors vous avez publié des livres. Je donne, disons, les références des deux derniers. Le travail créateur, s'accomplir dans l'incertain, qu'on trouve en livre de poche aux éditions du Seuil depuis 2009. Et les intermittents du spectacle, sociologie du travail flexible, publié par l'École des hautes études en sciences sociales en 2011. Nous allons, à partir de cette année, écouter vos leçons publiques sur notre antenne. Comme vous le savez, cet entretien va nous permettre, à nous autres auditeurs, de faire plus ample connaissance avec vous. Merci donc d'être avec nous ce soir, Pierre-Michel Menger. Et commençons d'abord par une question tout à fait indiscrète. D'où vous vient ce nom à consonance germanique ?
Je suis lorrain d'origine. Mon père était lorrain et ma mère était alsacienne, mais c'est un nom lorrain. Je suis né dans une ville minière de l'est de la France, à la frontière allemande, Forbach, en Moselle, qui fut même une année capitale du travail, mais dans une région très dévastée par la crise minière et sidérurgique depuis de très longues années.
Il paraît qu'en Moselle, on parle très très bien l'allemand. Est-ce que vous parlez bien l'allemand ?
Oui, j'ai entendu l'allemand depuis mon enfance. J'allais même en Allemagne acheter des disques parce qu'il n'y en avait pas à Forbach. Et quand j'avais besoin de trouver de la musique classique, c'est-à-dire à l'âge de 13-14 ans, j'ai pris mon vélo et je suis allé en Allemagne et je parlais couramment allemand, oui.
Donc, traverser une frontière, c'est...
C'est une habitude et c'est même une nécessité dans les sciences. Savoir traverser les frontières et les disciplines, c'est une bonne ressource pour augmenter sa capacité d'invention.
Voilà. Alors, vous êtes philosophe de formation ?
Oui, absolument. J'ai eu une grande passion pour la philosophie. Dès l'âge de 15-16 ans, je lisais de la philosophie avec d'abord avec difficulté, mais oui, je m'ennuyais un peu dans ma bonne région de Forbach, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et j'avais un ami libraire qui m'avait pris en amitié, qui m'offrait sa librairie comme une bibliothèque. Inutile de dire qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment de bibliothèque, et donc j'allais piocher et je me suis passionné
Elle
pour la philosophie.
Elle était comment cette librairie ?
Elle était sensationnelle parce que je pouvais m'y installer et j'y avais mes habitudes et c'était un endroit magique. Et donc j'ai appris à aimer la philosophie, à aimer cette sorte de difficulté et ensuite de récompense profonde qu'est l'univers d'une certaine abstraction, mais extraordinairement bien organisé. Et le travail de la langue, le travail des concepts, c'est quelque chose qui m'est resté. Même si je ne suis plus philosophe, je suis resté philosophe quelque part en moi-même profondément parce qu'il y a une sorte de rigueur du travail de la pensée qui vous marque de manière indélébile pour votre vie, je crois. crois. Surtout quand on l'a aimé comme je l'ai aimé. Et ensuite, j'ai fait une
place... Et comme vous l'aimez toujours, j'espère.
Oui, oui, voilà. Comme je l'aime toujours, comme je la lis toujours. Elle a changé depuis l'époque où je me passionnais beaucoup pour elle. Mais tout de même, un certain nombre de débats rejoignent toujours des questions ou des traitements de type conceptuel et philosophique. La philosophie a évolué aussi vers la philosophie analytique, vers d'autres terres. Et puis les échanges entre philosophie et sciences sociales sont assez nombreux. Aujourd'hui, entre philosophie et neurosciences, c'est un continent qui s'est ouvert depuis quelques années, qui est extraordinaire. J'ai été très surpris de constater que les philosophes allaient faire des expériences de laboratoire. Je pensais que c'était réservé maintenant aussi à des sciences sociales, mais les philosophes s'y mettent aussi. Donc beaucoup de choses
changent. Il serait temps.
Voilà,
parce qu'à part Bachelard à l'époque, peu de philosophes mettaient les pieds dans les laboratoires.
Dans les laboratoires, mais maintenant on fait des expériences, y compris avec des questions que traitent les philosophes pour savoir si l'exercice de la pensée solitaire correspond au sens commun du public.
C'est important.
Oui, c'est absolument important, c'est une bonne attitude.
Alors, vous avez eu de grands professeurs de philosophie ?
Oui, oui, oui. Je me suis formé d'abord dans ma bonne ville de Strasbourg. Quand j'ai quitté ma Lorraine natale, j'ai été faire mes classes d'Hippocagne et de Cagne à Strasbourg.
Vous étiez où, dans quel lycée ?
Au lycée Fustel de Coulanges.
Près de la cathédrale.
Voilà, on voyait le soleil se lever sur le grès rose des Vosges. Juste sur la cathédrale qui était mitoyenne du lycée Fustel de Coulanges. J'avais un professeur de philosophie qui s'appelait André Tubeuf, qui est un grand amateur de musique.
Mais bien sûr, il écrit des livres sur l'opéra.
Absolument. Et il avait une virtuosité exceptionnelle en termes de paroles philosophiques. Il improvisait ses cours avec une maîtrise, je dois dire, assez impressionnante. Mais j'avais aussi la chance d'avoir... à l'université, des enseignants, de jeunes enseignants très dynamiques, Jean-Luc Nancy et Philippe Lacoulabarthe, qui m'ont en quelque sorte introduit à la philosophie de Jacques Derrida et à ce monde-là que j'ai passionnément aimé jusqu'à mes premières années à l'école normale. Quand je suis entré, j'ai été l'élève de Jacques Derrida dans le format qu'étaient les études à l'école normale supérieure. On n'était pas vraiment l'élève de quelqu'un, mais on bénéficiait de la présence de ces enseignants-là qui étaient...
De ces caïmans.
Bien sûr, de ces caïmans. Et voilà, donc... Et puis, ensuite, assez vite, l'agrégation de philosophie est comme thème la société. Et nous avons vu tous les grands sociologues français nous présenter l'état de leur discipline pendant une année.
Alors, qui étaient les grands sociologues français
Il y avait Bourdieu, Boudon, Touraine, Crozier, Aron, Jean-Daniel Reynaud. On nous avait fait un menu complet pour l'année. Et donc, nous n'avions plus qu'à admirer l'état actuel de la discipline. Et ça a déclenché chez certains d'entre nous une vocation ou une reconversion vers cette discipline. Et j'en étais avec quelques camarades. Et voilà, donc c'est de là que c'est parti. Mon goût pour la science sociale, la sociologie, à ma manière, mais la sociologie, oui, et l'influence de Pierre Bourdieu a existé, bien sûr. C'était l'époque où la sociologie avait un lien extrêmement fort avec la philosophie. La discipline sociologique à l'université n'avait pas été constituée de façon autonome avant la fin des années 70 et le début des années 80, où on a commencé à créer des enseignements de sociologie. Mais avant ça, beaucoup de sociologues étaient formés à la philosophie. C'est le cas de Pierre Bourdieu, de Raymond Aron, de Jean-Claude Passeron, je pourrais vous en citer beaucoup, et j'en venais aussi. Et donc... Bien sûr, le traitement systématique avec une attention considérable au goût de la théorie chez quelqu'un comme Pierre Bourdieu qui avait une théorie générale des lois de la gravitation sociale, si on peut dire. Évidemment, ça fascinait beaucoup les jeunes philosophes que nous étions.
C'est-à-dire que la sociologie est devenue, à un moment donné, justement, grâce à tous les gens que vous venez de citer, Aron, Bourdieu et tant d'autres, un lieu de pensée, finalement.
Oui, ça a été un lieu à la fois de production de connaissances empiriques sur le monde social et un lieu de théorie de la société, de théorie générale de la société, comme on pouvait, en quelque sorte, en espérer espérer la constitution et le développement et le remaniement périodique en fonction des données empiriques. C'est clair que c'était une discipline extra. Et puis, elle avait un caractère assez unifié. Dans les années 70-80, vous pouviez encore espérer écrire des théories générales. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus difficile. La discipline s'est considérablement développée et fragmentée en sous-disciplines, en spécialités. Et donc, avoir une sorte de vue générale de tout l'ensemble des problèmes avec à la fois le système, on peut toujours avoir un système, bien sûr, mais aussi l'attention à l'épreuve empirique la plus précise. Et puis, les paradigmes théoriques se sont multipliés, etc. Donc, aujourd'hui, je pense que le régime scientifique s'est modifié. L'ambition de chacun est d'avoir un cadre théorique ferme et qui permette de brasser beaucoup de réalités. Mais c'est vrai que la pression à la spécialisation dans certains domaines est plus forte qu'avant.
En vous écoutant, Pierre-Michel Menger, on entend bien que vous avez l'intention de refaire de la sociologie un vrai lieu de pensée, d'expérimentation. Et au fond, comme vous touchez à un point névralgique de la sociologie, ce point névralgique étant le travail, et notamment le travail créateur, je pense qu'il va y avoir effectivement autour de cette chaire de nombreux débats et sans doute de nombreuses polémiques. Enfin, on peut l'espérer en tout cas.
Il y a, je pense, dans la sociologie, en tout cas en Europe et certainement en France, il y a trois domaines qui ont été constitutifs de l'essor de la discipline à partir des années 60-70. C'était l'éducation, le travail et la culture. Et je pense que c'est le creuset à la fois du développement, de l'actualité profonde de la discipline, de son renouvellement, de son extension et de la permanence d'un certain nombre de problèmes clés. Par exemple, la grande question que traite à la fois la science et l'action publique, c'est la question des inégalités de réussite dans ces trois mondes et ces trois coordonnées d'action que sont la dimension éducative, culturelle et de travail. J'ai travaillé sur le domaine de la culture, j'ai étudié de près le monde du travail à travers un certain nombre d'objets et j'enseignerai l'année prochaine sur la question de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc je me meus un peu dans ce système de coordonnées pour traiter à ma manière les grands problèmes de la société contemporaine.
Pour vous, donc, le travail créateur et ses caractéristiques, c'est-à-dire la précarité, par exemple, la mobilité ou encore la fabrique de mécanismes inégalitaires, vous venez de le dire, permet de comprendre les transformations de la notion de travail dans les sociétés modernes. Or, Pierre-Michel Menger, moi j'ai un problème avec ça, puisque le travail créateur est toujours celui d'un individu particulier, que son travail singularise, rend unique, mais à part, d'une certaine façon, c'est toujours dans l'exception que travaille le créateur. Alors, comment ce travail qui n'entre au fond dans aucune case collective peut-il être l'objet de la sociologie ?
Vous avez deux manières de raisonner ici. Vous pouvez dire d'une part qu'un individu, si singulier soit-il, s'inscrit dans une généalogie, il est l'héritier de traditions considérables. Observez qu'il est rare que le produit du travail puisse être admiré des siècles durant. Généralement, le produit d'un travail, il est fongible, il est absorbé par ce que vous avez produit, un objet, un service, et c'est terminé. Il y a peu de travaux, peu d'exercices du travail qui donnent lieu à des objets qui vivent très longtemps. Il se trouve que c'est le cas d'un certain nombre de travaux en art, et c'est ce qui peut arriver de mieux à un artiste, c'est d'avoir une carrière durable et peut-être même éternelle.
C'est ce que visent tous les artistes.
Il y a très peu de cas comme ça, mais oui. En tout cas, les arts sont une exception remarquable de travail à vocation de durabilité extrêmement longue. Et donc, ça veut dire aussi que la mémoire de ce monde est extrêmement présente, soit pour accumuler, soit aussi pour rompre avec le passé, qui est une posture classique de promotion de la singularité de chacun. Mais ça veut dire que l'individu s'inscrit dans une histoire et il a avec lui, il transporte son histoire. En ce sens-là, l'individu est, si singulier soit-il, a pour partenaire Michel-Ange, Beethoven, Boulez et bien d'autres. Et il y a un très joli texte de Georg Simmel qui le dit très bien. Combien faut-il d'individus et d'actions pour avoir produit le plus petit pianiste qui agit aujourd'hui, qui va donner un concert dans une ville, quelle est la profondeur de formation et de transmission et de transformation d'un art pour que quelqu'un arrive à devenir singulier. La singularité n'est pas une chose qui est une émergence à partir de rien, c'est une Bien recombinaison sûr. Permanente. Et une des grandes questions qui a été posée dans le monde des arts, c'était la question de la propriété littéraire et artistique. L'individu est-il propriétaire d'une invention qui est très souvent le produit d'une recombinaison avec des déviations par rapport à son passé. Mais Proudhon disait, ces idées-là, elles existent de manière massive, elles circulent partout. L'individu veut mettre un sceau sur le propriétaire sur sa combinaison personnelle. Est-ce légitime ? D'autres, Lamartine a dit, mais oui, c'est légitime. Autrement dit, l'énergie collective de travail dont bénéficient certains, elle existe de toute façon. Donc, c'est une manière de relier l'individu à toute une communauté d'échanges. Et ça n'est pas un hasard si les artistes vivent souvent dans des villes, dans des mégalopoles, dans des métropoles où ils bénéficient d'une intensité élevée d'échanges.
Donc, vous voulez dire pas d'art sans transmission ?
Pas d'art sans transmission, sans échange et sans obsession de l'interaction.
Absolument.
Il faut échanger.
Quand on est peintre, il faut aimer la danse.
Il faut aimer la danse. Il faut coopérer et être aussi
et
concurrent
poésie.
Avec les autres danseurs,
Absolument.
Voir ce qu'ils font, tester ses idées sur sa communauté professionnelle, avoir des projets qui combinent et recombinent sans arrêt des ressources
Forme.
Et des échanges d'idées. Donc ça, c'est une première manière de loger l'individu dans un ensemble. Ce qui veut dire que vous devez qualifier la différenciation individuelle par rapport à une écologie de travail qui est le système des relations qu'occupent les individus dans un ensemble et avec leurs pairs. Ils en sont à la fois les complices et les concurrents, d'une certaine manière, en permanence. C'est cette double posture qui est nécessaire. On ne peut pas se différencier sans être à la fois proche et en essayant d'être original, c'est-à-dire différent. L'autre aspect qui est une réponse à votre observation, c'est l'individu travaille avec tout un ensemble de partenaires. Un éditeur sera là en amont pour publier ses livres et en aval pour les faire connaître. Dans un ouvrage célèbre qui a beaucoup marqué la discipline de la sociologie des arts, qui s'appelait « Les mondes de l'art » de Howard Baker, Howard Baker disait « la production artistique est une chaîne d'action collective ». Et donc, l'individu créateur est au centre d'un réseau d'acteurs. Par exemple, le valet de chambre qui réveillait à 6h du matin l'écrivain Trollope au 19e siècle fait partie de ce monde de l'art puisqu'il contribue d'une certaine manière à enclencher l'énergie créatrice de Trollope.
C'est le cas de Céleste, la femme qui...
Absolument, dans Proust.
Dans Proust.
Hein. Exactement. Et celui qui a produit le matériau photographique qui est nécessaire à un photographe photographe pour travailler, il fait partie de ce monde-là. Quand ce matériau photographique disparaît, par exemple la pellicule argentique, eh bien, le monde de l'art se remanie. Donc, vous voyez bien qu'il suffit de déplacer une pièce pour voir si ce monde de l'art travaille encore de la même manière. Et s'il ne travaille pas de la même manière, ça veut dire que si cette pièce était nécessaire et qu'elle a été changée, il faisait partie du monde de l'art, et que le monde de l'art, s'il doit innover ou s'il doit se remanier, doit modifier des pièces dans un réseau de collaboration. Et ça, c'était une idée évidemment intéressante, qui était de dire le créateur n'est pas un personnage sorti de nulle part avec ses idées foudroyantes, il est dans un système de travail, littéralement, et il collabore de manière qu'on peut étudier, flexible, original, atypique parfois, mais aussi parfois très routinière, avec beaucoup d'acteurs qui contribuent à faire exister un domaine. Et vous observerez aujourd'hui qu'une sorte de nouvelle comptabilité du monde des industries créatives, comme on les appelle, met en avant la quantité d'emplois qui est créée, la quantité de la Absolument, part de PNB oui. qui est consacrée à ce domaine-là, la fierté que peut avoir un pays d'avoir une culture très développée, etc., etc. On nous produit en France aujourd'hui beaucoup de documents de ce type pour valoriser l'investissement public dans la culture et la fierté nationale d'avoir un pays avec un sens aigu de ce que c'est que la culture et la création.
Première recherche, Pierre-Michel Menger, portait sur la sociologie de la création et de la consommation musicale.
Oui.
Vous êtes musicien vous-même ?
Je ne suis pas musicien, hélas, je l'ai beaucoup regretté. J'ai découvert la musique par hasard, littéralement. Quand un ami de la famille est décédé et a légué à mes parents et à moi, il me destinait spécifiquement quelques disques de musique classique et mon bureau, qui est toujours mon bureau en chêne, un grand bureau. Et les disques de musique classique, quand je les ai entendus, ont été une sorte de découverte absolument foudroyante. Et à partir de là, une semaine après, je partais avec mon vélo en Allemagne, à Saarbrücken, comme on dit en allemand, acheter des disques. Et c'est de là que c'est né. Et c'est devenu quelque chose qui a résonné profondément en moi, qui m'a dit c'est un art auquel j'ai été immédiatement sensible. Et je ne sais pas, j'ai trouvé dans Lévi-Strauss, qui fut, hélas, un collègue que je n'ai pas connu au Collège de France, mais Dieu sait si c'était une figure importante du Collège de France, Lévi-Strauss, qui était un grand passionné de musique et musicien lui-même, a écrit que c'était un art qui avait à la fois les qualités d'organisation intelligible et des propriétés, évidemment, d'expression sensible de la matière qui étaient uniques parce qu'elles étaient si profondément couplées. Coupler l'organisation logique du temps et la puissance émotionnelle de la matière sonore, c'est une caractéristique que Hegel, le philosophe, avait bien décrite. Dans la musique qui entre dans l'oreille, elle a des caractéristiques particulières. Il avait même, un de mes articles, je l'ai appelé l'oreille spéculative, ce qui est une manière de réunir les deux caractéristiques à ma manière. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, cette dimension à la fois extrêmement forte, presque mathématique, une mathématique secrète, a dit un jour Jean-Claude Risset, un normalien compositeur, physicien, et en même temps, vous pouvez frissonner, votre corps est saisi de transe quand vous avez de vraies grandes émotions musicales.
Le concept rejoint la sensibilité
Exactement.
La plus pointue, c'est
Exactement.
Ça, la plus aiguë.
Voilà, vous avez une sorte de bande de Möbius où l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire la puissance logique de la musique, c'est une architecture très profondément organisée, la musique, la forme sonate, le langage classique et ses destructions contemporaines, mais avec des reconstructions d'un autre langage. Ce sont des exercices à la fois extrêmement logiques et extrêmement puissants sur le plan du calcul des effets émotionnels et de l'investissement affectif qu'on peut y faire. Et donc ça m'a intrigué comment est-ce que cet art-là se renouvelle ? Et j'avais grandi dans une période où on a défait en quelque sorte le langage classique, le langage tonal, et on a essayé de reconstruire autre chose. Les avant-gardes ont voulu rompre avec le passé depuis le début du XXe siècle, et dans les années d'après-guerre, celles des années 50-60, on avait affaire à une guerre entre les anciens et les modernes. Et j'ai voulu comprendre comment fonctionnait cette situation, cette guerre, et quels étaient les enjeux. Mais il fallait le faire en sociologue et j'avais quelques bons modèles d'analyse. Les arts n'étaient pas, n'étaient encore moins auparavant qu'aujourd'hui, mais n'étaient pas un domaine glorieux ou majeur de la science sociale. C'était un domaine un peu mystérieux, même si des travaux étaient faits, mais Bourdieu avait beaucoup travaillé sur la consommation plutôt que sur la production. Le grand livre qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai commencé mes travaux, c'était un livre de Raymonde Moulin, qui a été ensuite ma directrice de thèse, qui a écrit un ouvrage extraordinaire sur le marché de la peinture en France, qui était une analyse du monde des arts visuels, qui sont à la fois un marché et un système de travail très particulier, un marché très difficile à analyser parce qu'il est assez opaque. Les transactions sont des transactions privées, souvent les ventes aux enchères ne sont qu'une partie émergée d'un océan de transactions particulières. Et,
c'est un haut lieu de la spéculation. Ce ne peut pas être la musique.
Absolument. C'est un autre art et c'est un autre système de travail, de marché. Un marchand dit dans le livre de Raymonde Moulin, plus l'eau est trouble, meilleure est la pêche. Qui veut dire beaucoup de choses. il y a un usage stratégique de l'asymétrie d'information. Le vendeur est plus informé que l'acheteur, etc. Et c'est quitte pour l'acheteur d'augmenter sa connaissance de son milieu, la connaissance des peintres, etc. Enfin, c'était un mélange d'ethnographie extrêmement fine et d'analyse socio-économique très sophistiquée des marchés. Et j'ai trouvé ce livre formidable et à partir de cette lecture-là, je suis allé voir cette dame, Raymonde Moulin, cette collègue sociologue, elle m'a pris en thèse et c'est comme ça que j'ai fait ma thèse sur le monde de la musique, à la fois en France et puis par des comparaisons européennes. Ça, je dois dire que c'est extrêmement intéressant d'avoir une expérience internationale très tôt pour avoir la dimension comparative. Et ne pas
internationale,
être...
c'est-à-dire
européenne. Européenne, oui, principalement. J'ai coordonné une enquête internationale sur les aides à la création musicale en Europe, système public, la manière dont les compositeurs vivaient, travaillaient, se coordonnaient entre
Vous
eux.
Vous l'avez publié, pardon.
Ça a été publié au Conseil de l'Europe dans mes jeunes années. Et voilà. Et puis ensuite, j'ai été aux États-Unis regarder comment les technologies informatique était utilisée dans les années 80 par les compositeurs, déjà avec cette opposition qui a été très visible en France ultérieurement, mais entre des machines très puissantes des universités, des gros ordinateurs supposés vaincre les dernières connaissances à trouver sur la matière sonore et en quelque sorte faire une génétique de la matière sonore en la décomposant et la recomposant avec des algorithmes puissants d'un côté, et de l'autre on voyait des compositeurs avec des petits systèmes personnels qui sont devenus nos ordinateurs portables, mais il y avait deux communautés très différentes. Et on avait ceux qui travaillaient dans les villes, je me souviens d'entretien à New York, et d'autres qui étaient dans les grandes universités avec le rêve de refonder la matière sonore. À Boston, j'avais été au Media Lab du MIT, et on avait là le pape de l'intelligence artificielle, Marvin Minsky, qui se rêvait en nouveau Beethoven parce qu'il collaborait avec des compositeurs. Voilà le genre de travaux sur lesquels on peut déboucher quand on s'intéresse à la musique, parce que la musique a un lien assez fort avec les sciences. Et l'acoustique, la physique du signal, l'informatique, les propriétés d'analyse de la matière compositionnelle, la linguistique elle-même s'est intéressée à la matière musicale. Voilà, c'était un domaine qui était très riche d'analyse. Mais à un moment donné, vous devez choisir. Soit vous entrez dans la matière musicale beaucoup plus profondément en apprenant la composition pour aller plus loin dans l'analyse, ou alors vous vous dites non, je ne ferai qu'étudier des marchés, des carrières et des consommateurs. Et à un moment donné, vous en avez fait le tour. En tout cas, je l'ai estimé. Après, une enquête aussi auprès des publics pour comprendre comment un public peut être à la fois perplexe devant ce qu'on lui offre en matière de nouveautés musicales radicales et en même temps fidèle. Thank you.
au fond, la musique est un des rares arts qui, effectivement, oblige à une transmission concrète. C'est-à-dire que, d'ailleurs, le cas Boulez est particulièrement intéressant, puisque Boulez est capable de diriger, effectivement, Wagner, comme on sait, ou Mahler, et puis il fait de la composition qui déstructure. Oui. Mais par exemple, un peintre peut très bien ne pas savoir refaire les Ménines. Mais un musicien, oui. S'il ne sait pas, au fond, jouer du Monteverdi, il est absolument incapable de créer, par exemple.
Vous mettez le doigt sur un problème intéressant qui est il y a à la fois des éléments communs à tous les arts. Quand on étudie les choses en sociologue, on peut s'intéresser à des carrières, des systèmes de travail, des mécanismes d'action collective, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont communs à l'ensemble des arts, même s'ils ont des coordonnées différentes selon chaque art. Et en même temps, les arts ont des propriétés particulières. Le rapport au passé, à travers le système de travail, comme vous dites qu'un compositeur peut être aussi un interprète. Voilà, c'est une question.
Et même il doit l'être.
On peut l'observer de manière empirique. On peut regarder, par exemple, combien de compositeurs du XXe siècle ont été eux-mêmes des interprètes. Et un des premiers travaux que j'ai fait a été de montrer quel était le lien fonctionnel entre les deux rôles, compositeur d'un côté, interprète de l'autre. Est-ce que ce lien était stable ou est-ce qu'il s'est distendu jusqu'à un certain point? Et de fait, il s'est plutôt distendu, sauf au niveau le plus élevé de reconnaissance. Il y a quelques compositeurs qui étaient eux-mêmes chefs d'orchestre, qui sont les deux rôles clés. Compositeur et chef d'orchestre sont les deux rôles clés des milieux musicaux, chacun dans son domaine, interprétation et composition. Mais c'est devenu des rôles de moins en moins reliés entre eux. Auparavant, quand vous étudiez historiquement les carrières, c'était beaucoup plus lié. Les carrières étaient souvent des passages assez systématiques du rôle d'interprète au début, au rôle de pédagogue et de compositeur. C'était une combinaison beaucoup plus fluide auparavant. C'est un point important aussi pour comprendre ce qu'est la liaison entre deux actes très différents dans l'univers à la fois des arts et des sciences, qui est la liaison entre enseignement et recherche. Ce sont deux activités profondément différentes. L'enseignement, c'est une activité que tout le monde peut à peu près exercer dans de bonnes conditions du moment qu'il a absorbé un certain nombre de savoirs bien stabilisés. Il peut les transmettre. Il y a des différences de qualité entre d'excellents enseignants et de mauvais enseignants, mais grosso modo, la distribution des performances d'enseignants, elle est à peu près gaussienne, comme on dit, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve à peu près au centre de la distribution. Il y a beaucoup de bons enseignants et une toute petite minorité d'excellents et une toute petite minorité d'enseignants de mauvaise qualité, mais la différence, elle n'est pas très sensible. C'est l'essentiel, c'est avoir un bon enseignant, c'est une chose dont on peut penser qu'elle est assez normale, une bonne performance d'enseignant. En revanche, la recherche, elle a des propriétés très différentes. Elle est extraordinairement inégalitaire. Il y a une toute petite minorité de chercheurs, ça c'est vérifié par toutes les analyses qu'on a, qui sont essentiellement beaucoup plus productifs et qui attirent plus d'attention sur eux que les autres. Et donc, on couple les deux, en quelque sorte, comme on couple une activité risquée, la recherche. Si l'activité de recherche attire de manière si inégalitaire, ça veut dire aussi qu'elle est beaucoup plus risquée. Évidemment, vous risquez bien, en vous y engageant, de ne pas obtenir du tout de visibilité.
Trouveurs. Il y a beaucoup de chercheurs, mais peu
voilà.
de trouveurs.
Et il faut beaucoup de monde pour que se créent ces situations, ou quelques-uns peut-être. Mais ça serait intolérable si on exposait directement certains individus uniquement à l'activité de recherche la plus risquée, en disant, bon, tu t'y engages, et si ça ne marche pas, ben, tant pis pour toi, au revoir et merci. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que les mondes sociaux, les mondes de travail sache organiser à la fois la prise de risque et la protection à l'égard du risque. Parce que si vous avez pris des risques et que ça n'est pas couronné de succès, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, coupler enseignement et recherche, ou composition et performance, ou composition et enseignement, c'est une manière d'associer une activité à résultat assez certain, l'enseignement, avec une activité à résultat très incertain, qui est la recherche. Voilà le type d'argument qui m'intéresse pour savoir comment les mondes se débrouillent pour à la fois solliciter une énergie inventive avec le risque qui va avec et des inégalités qui sont assez spectaculaires, mais qui peuvent être tolérées jusqu'à un certain point. Si elles étaient socialement intolérables dans ces mondes-là, on n'aurait plus de chercheurs. On considérerait que c'est un enfer. Donc, il faut pouvoir à la fois inciter les individus à s'y engager, parce que c'est la ressource majeure, l'inventivité, l'innovation, le développement des connaissances, des arts, etc. Et de l'autre côté, leur donner le moyen de stabiliser leur activité par des ressources assez sûres et par des activités aux résultats assez certains.
Michel Menger, votre chaire s'intitule, je le rappelle, Sociologie du travail créateur. Vous travaillez sur la notion de travail. Là, vous êtes en train de penser quelque chose au cœur, finalement, de notre dispositif social français. J'aimerais bien que vous nous disiez un mot sur la manière dont vous envisagez les choses et dont vos cours vont les refléter.
Alors, quand j'ai commencé à étudier le monde des arts comme un système de travail, je me suis dit, voyons, il me faut à la fois un cadre théorique, et je l'ai bâti à travers des notions comme prise de risque, comportement en horizon incertain, capacité de travailler au projet, par projet, et de fait aussi comment assurer la viabilité de systèmes qui exposent évidemment à des risques assez élevés en termes de je réussis ou je ne réussis pas, je passe par des épisodes de chômage entre deux projets, etc. Comment est-ce que c'est viable économiquement, socialement, psychologiquement, individuellement. Et donc, j'ai étudié les systèmes d'emploi et le système d'emploi qui a les propriétés les plus paradoxales en France et qui a peu d'équivalents internationaux, mais qui aujourd'hui peut donner lieu à une méditation profonde sur ce que sont les évolutions du marché du travail, c'est le système qu'on appelle les intermittents du spectacle. Qu'est-ce que c'est ? C'est dans le secteur des arts du spectacle, mais pas seulement, aussi dans le journalisme, dans certaines activités qui d'ailleurs peu à peu gagnent en importance, les enquêtes d'opinion, il y a tout un ensemble de secteurs qui sont habilités à utiliser le contrat à durée déterminée de manière systématique et récurrente, ce qui est normalement interdit par la loi. Le code du travail français interdit d'utiliser ça plus de 18 mois, éventuellement renouvelable. Là, c'est constant. On peut utiliser le CDD de manière constante du moment que l'emploi est réputé temporaire, c'est-à-dire qu'on travaille au projet. Et donc, puisque les individus travaillent au projet, ça veut dire qu'entre deux projets, ils ont des risques de chômage. Et donc, il faut les couvrir du risque de chômage, et on a bâti un système de combinaison entre emploi et chômage qui était supposé les protéger des risques de chômage qui sont constants. Alors, c'est un monde qui entre en crise régulièrement parce que ce système s'est développé notamment à partir des années 80. Les années 80 en France sont celles du décollage de la politique culturelle publique. On a doublé le budget, on a multiplié les festivals, les organisations artistiques,
les manifestations
temporaires et les structures plus permanentes, mais sous forme plus légère, comme les associations 1901 qui dirigent des compagnies et des orchestres. Toute la musique baroque s'est complètement servie de l'intermittence, à la différence des orchestres classiques qui sont des emplois permanents. Et puis, l'autre facteur de développement de ce secteur, de cette forme d'emploi, ça a été le développement de l'audiovisuel en France avec la libéralisation de l'audiovisuel. Il n'était plus un monopole d'État. Et le recours à des contrats très flexibles a été massif. Et on a un paradoxe extraordinaire dans un monde de travail, c'est que plus l'emploi augmente, plus le chômage indemnisable augmente aussi, et même parfois plus vite que l'emploi. Donc, on ne comprend pas ça.
Parce qu'au départ, tout de même, pardon, je vous interromps, Pierre-Michel Menger, mais il y avait aussi cette idée au fond, de rémunérer la préparation du projet, c'est-à-dire cette partie émergée de l'iceberg, tout ce qu'on ne voit pas. Par exemple, un comédien joue toutes ces heures de préparation, ses lectures, etc. etc. Et donc, c'était aussi ça l'intermittence, disons, au départ.
Oui, oui. C'est le grand problème du prix du travail. Quel travail et pour quel prix? Et donc, le travail comporte évidemment des aspects de préparation, de rumination. Dans ma leçon inaugurale, je donne les clés de ce qu'on appelle les quatre phases d'un travail créateur. L'absorption de connaissances sur ce qui s'est fait, la rumination pour mettre en quelque sorte tout ça en mouvement après avoir fait le travail de préparation, et puis ensuite une sorte d'absorption un peu inconsciente qui donne lieu à des télescopages d'idées fécondes. Et puis ensuite, on fait le tri entre les idées qu'on pense fécondes pour voir lesquelles vont tenir la route. Et donc, une partie de ce travail est clairement désignée comme avoir un résultat tangible, mais toute une autre partie est intangible d'une certaine manière. Il vous faut du temps, il vous faut des interactions, il vous faut des essais et des erreurs. Et il y a des métiers dans lesquels la partie visible du travail est assez faible par rapport à la partie de préparation et la partie invisible. Mon métier au Collège de France, c'est 12 heures ou 13 heures de cours, mais je peux vous dire que le temps de préparation est considérable. Les métiers de l'enseignement et la recherche sont de cet ordre-là. Tout n'est pas fixé sur un résultat tangible. Et voilà. Donc, ça, c'est ce point-là. Mais ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a, outre ça, il y a l'idée que cette forme d'emploi-là, elle a des caractéristiques qui sont imbattables sur le marché du travail en France, c'est-à-dire le système d'emploi dans les arts du spectacle a un coût procédural nul, comme je dis. C'est-à-dire que vous embauchez et vous licenciez, il y a même pas, on ne peut pas appeler ça du licenciement, vous terminez un contrat, vous le démarrez, vous le terminez, il n'y a aucune règle contraignante. Vous pouvez embaucher quelqu'un pour 3 heures, 3 jours, 3 semaines, et il n'y a pas besoin de justifier, etc. Du moment que vous êtes dans le secteur en question, vous êtes libre d'utiliser ce système comme vous le voulez.
L'employeur est libre.
Et l'employeur fait ce qu'il veut. Il peut réembaucher ou ne pas réembaucher quelqu'un. Il n'a aucune responsabilité sur la carrière des gens. Il embauche quelqu'un pour un coup, pour plusieurs fois, etc. Comment ce système fonctionne? Alors, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce charivari? Comment ça marche exactement? Comment les individus s'organisent pour créer des agendas de travail, des carrières, à travers des relations d'emploi aussi décomposables en projets qui peuvent n'avoir aucun lendemain. Donc, c'est là que la matière empirique est formidable parce que vous pouvez suivre, et c'est ce que j'ai fait, on a constitué une base de données de la totalité des contrats des individus sur 20 ans. Et on peut voir comment les individus organisent leur système de travail dans un cadre aussi chaotique. Eh bien, on voit émerger très vite des régularités, des phénomènes précis. Par exemple, un individu se constitue un employeur pivot autour duquel il va organiser des contrats qui sont plus temporaire. Il va nouer des contacts avec un tel ou avec tel ou tel employeur, mais il reviendra vers l'employeur avec lequel il a créé une attache particulière, au moins pour un temps. Du moins, c'est ce qu'il va espérer. Mais c'est
au fond, il va trouver un point de stabilité.
Il va essayer de constituer un peu de stabilité dans le système et autour de laquelle il va créer un halo de relations plus temporaires. Ça, c'est la bonne situation, évidemment. C'est quand on arrive à se fixer dans le système, voilà ce qui peut être fait. C'est moins vrai des musiciens qui ont moins d'employeurs pivots, mais c'est beaucoup plus vrai dans le système pour les techniciens, par exemple, dans le monde audiovisuel. Ils ont des employeurs pivots. Et ensuite, vous devez examiner quelles sont les chances pour les individus de rester dans ce système. Parce que ce système disperse le travail sur beaucoup de candidats. Ces métiers sont extrêmement attractifs et beaucoup veulent s'y essayer parce que c'est la liberté, c'est la création, c'est l'audiovisuel, c'est le cinéma, c'est le plaisir d'être plus autonome dans le travail, pas de subordination à un employeur permanent unique. Donc, il y a beaucoup de facteurs qu'on peut analyser en termes très, très classiques. C'est les conditions de travail. Et en même temps, il y a beaucoup de risques puisque la concurrence est féroce. La quantité de travail augmente moins vite que le nombre d'individus qui veulent se le procurer. Donc, il passe un temps au chômage qui a augmenté dans le temps par rapport au passé. Autrement dit, dans un secteur qui se développait en termes de travail, il y avait effectivement plus d'heures de travail aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans, mais il y a plus de chômage indemnisé aussi. C'est totalement paradoxal. On ne peut pas comprendre comment on crée de l'emploi et du chômage en même temps. Et voilà, c'est ça le mécanisme. Et donc, mon idée était d'analyser ça complètement. Donc, c'est une analyse sectorielle. Il est rare d'avoir un secteur qu'on puisse complètement décomposer et recomposer à travers la matière empirique.
C'est un énorme travail.
C'est un travail qui a été fait progressivement et qui peut être refait. Les étudiants que j'ai eus ont exploité ces bases-là aussi, ont travaillé avec les partenaires sociaux pour comprendre tout ça et pour le valider. Et en même temps, on voit se diffuser des mécanismes en dehors de ce secteur qui commencent à avoir exactement les mêmes propriétés. On va dans le sens d'une flexibilisation des contrats. Regardez aujourd'hui ce qu'on appelle le développement en France de l'activité réduite, c'est-à-dire la combinaison emploi-chômage. C'est plus de 2 millions d'individus dans les statistiques du chômage qui sont dans les fameuses catégories B et C des chômeurs. Ceux qui ont travaillé moins de 78 heures ou entre 78 et 110 heures. On a même dans la réforme qui est proposée actuellement, on fait sauter toutes ces règles de moins de 78, plus de 78 heures. Autrement dit, on veut faciliter la combinaison emploi-chômage, qui est une des manières d'absorber la main-d'œuvre peu qualifiée et néanmoins de la faire travailler, mais pas au prix du marché avec le salaire minimum, etc. Et c'est une main-d'œuvre qui est évidemment une réserve de main-d'œuvre à un coût qui est en partie absorbé par le système d'assurance chômage. Donc une partie est payée par l'employeur et une autre partie qui est je n'ai pas besoin de plus de tant d'heures par mois de tel individu.
Mais les statistiques du chômage sont brouillées aussi.
Elles essaient de maintenir un cadre de distinction entre les chômeurs purs, entre guillemets, et les chômeurs qui combinent emploi et chômage. L'outil statistique est toujours, a toujours un problème d'adaptation à l'évolution des pratiques. Ça, c'est un des grands sujets. Regardez comment, par exemple, les artistes ont été classés par la statistique sociale. Savez-vous avec qui les artistes étaient classés autrefois ? Avec le clergé, l'armée et la police, dans les années 50. On ne savait pas quoi en faire. Ils étaient bizarres et on ne savait pas quoi en faire. Et puis, dans les années 80, quand on a refondu, récréé les nomenclatures, on les a mis dans les cadres supérieurs et les professions intellectuelles supérieures. Et puis, on s'est aperçu qu'ils avaient quand on a étudié leur revenus, leur système de travail, leur taux de chômage, on s'est aperçu qu'ils étaient totalement hors normes dans cette catégorie-là. Ils avaient les revenus les moins élevés, les taux de chômage les plus élevés. Et voilà. Et donc, on se retrouvait de nouveau avec une sorte de situation un peu disparate, mais ils sont maintenus dans cette catégorie-là. Donc voilà, la statistique sociale, c'est un mécanisme intéressant parce qu'elle a des effets extraordinairement puissants sur les conventions collectives, sur la représentation sociale du monde, la hiérarchie. Dans mon cours de cette année, je parle de l'échelle de prestige des professions, qu'est-ce qu'elle nous dit par rapport à la nomenclature des professions, de l'outil statistique, et qu'est-ce qu'est la valeur sociale d'une profession. Voilà une question intéressante. Et on peut combiner des éléments monétaires et non monétaires pour la comprendre.
On va écouter ce cours dans les jours qui viennent et dans les semaines qui suivent. Le thème de ce cours est le travail, sa valeur et son évaluation. C'est un cours tout à fait important et palpitant. Vous allez nous fournir vraiment des objets de pensée magnifiques dans la mesure où, précisément, sur ces questions du travail, il y a un échec patent du politique.
La réflexion et l'analyse et la décomposition analytique et des problèmes par l'outil scientifique est une étape absolument fondamentale, bien sûr. La communauté scientifique est importante et la collaboration entre les différents domaines scientifiques. Dans mon cours, comme vous l'entendrez, je fais appel à la fois à des travaux sociologiques, je ferai appel à des travaux économiques, parfois même psychologiques, pour comprendre un univers aussi important et complexe que le travail, et à la fois dans ses dimensions quantitatives et qualitatives. Mais il y a en même temps une sorte de frustration très forte des scientifiques quand ils localisent des problèmes et qu'ils pensent les avoir analysés complètement et qu'ensuite ils se demandent quel est l'usage qui peut être fait de la connaissance qui est produite et qui montre un certain nombre de points fondamentaux sur lesquels il ne peut pas y avoir de dispute grave. Quand la communauté atteint un certain niveau de consensus dans les sciences, et Dieu sait si elle sait organiser les controverses pour soumettre les résultats à évaluation et à discussion contradictoire, mais une fois qu'elle s'est mise d'accord sur un certain nombre de résultats stables, elle se dit normalement ces résultats devraient être assez faciles à exploiter pour mettre en œuvre des solutions ou tenter des solutions. C'est là que se localise une innovation qu'on espère beaucoup, c'est davantage de ce qu'on appelle l'expérimentation dans les politiques aujourd'hui. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas? Au lieu de déclencher des politiques dont on attend des résultats dans 20 ans, on peut dire essayons quelque chose et
surtout
regardons.
Surtout que dans 20 ans, on ne sait pas du tout ce qui se passe.
Exactement. Le contexte aura changé, etc. Donc essayons des choses et tâchons d'organiser dès que nous essayons quelque chose, que nous lançons une initiative, au lieu de penser que nous sommes tout puissants et que le réel n'a qu'à se plier à notre volonté, comme le pensent parfois les acteurs politiques, essayons de créer les outils aussi qui vont mesurer en temps réel les transformations souhaitées et l'écart entre ce qui était souhaitable et ce qui a été observé. Est-ce que cet écart est positif, négatif? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? On a un devoir d'expérimentation qui va en quelque sorte peut-être aussi réconcilier l'attitude analytique scientifique et l'attitude volontariste politique. Au lieu de nous promettre la Lune, on va en quelque sorte mesurer la distance Terre-Lune en temps réel.
Merci beaucoup, Pierre-Michel Benguer. De toute façon, c'est une incitation aussi à la démocratie, à l'approfondissement de la démocratie, ce que vous êtes en train de nous expliquer.
Merci.
Alors, vous avez publié des livres. Je donne, disons, les références des deux derniers. Le travail créateur, S'accomplir dans l'incertain, qu'on trouve en livre de poche aux éditions du Seuil depuis 2009, et Les intermittents du spectacle, Sociologie du travail flexible, publié par l'École des hautes études en sciences sociales en 2011. Donc c'était l'Éloge du savoir, le Collège de France, avec ce soir Pierre-Michel Benguer, titulaire de la chaire Sociologie du travail créateur. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation Anne Sécheret, présentation Christine Goémé. Donc rendez-vous demain pour la suite de votre cours Pierre-Michel Benguer consacré au travail, sa valeur et son évaluation. Et l'année prochaine, vous avez déjà un thème, vous continuez sur le même...
Je travaillerai sur l'activité de recherche et d'enseignement comme un cas particulier de travail.
Passionnant. Donc nous allons vous suivre avec beaucoup d'intérêt. Merci, bonne soirée.
Merci.
Et nous retrouvons tout de suite les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous. Thank you.